Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Émission spéciale ce samedi dans le cadre de la journée climat chaud devant sur France Inter. 5 ans jour pour jour après la signature de l'accord de Paris, c'était le 12 décembre 2015 au terme de la COP21. 195 pays s'engageaient pour contenir, vous le savez, le réchauffement climatique et limiter l'élévation des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Accord célébré dans l'allégresse, présenté comme une avancée historique à l'époque. 5 ans après, on peut dire que le constat est amer et les nouveaux signes ne manquent pas, qui indiquent une accélération désastreuse du réchauffement climatique. Situation qui risque plus que jamais de mettre en péril la perpétuation de la vie humaine sur Terre. Et pourtant, quelques signes d'espoir, comme celui d'hier soir par exemple, après le Conseil européen qui se terminait tôt le matin. Que nous est-il permis d'espérer? L'avenir sera-t-il vert ou bien rouge? Invité exceptionnel dans le grand face-à-face, il était le président de la COP21. Et on se souvient de son coup de marteau, celui qui avait scellé l'engagement pris à Paris. Et puisque l'heure est au bilan, il publie Rouge Carbone aux éditions de l'Observatoire. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sera au micro d'Inter dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de Bonjour. Vous retrouver. Et pour commencer, sommaire chargé, mais d'abord ça.
Ce pas en avant afin de faire en sorte que nous soyons dotés comme Union européenne des capacités financières pour faire face à la transition climatique, à la transition digitale, relever la tête, parce que nous savons que ce Covid est un choc et qu'il nécessite que nous agissions ensemble en faisant en sorte que nos valeurs puissent être prises en considération.
C'était un moment important dans la vie de l'Union. Vous venez d'entendre la voix du président du Conseil européen, Charles Michel, hier, après une nuit blanche passée à négocier. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 parvenaient à débloquer enfin le plan de relance pour faire face à l'épidémie de Covid. Des engagements pris aussi en matière climatique pour réduire d'au moins 55% les émissions de CO2 des pays de l'Union d'ici 2030. Vous l'entendiez dans le flash de Maria, mais nous y reviendrons évidemment avec Laurent Fabius. C'est le premier sujet à l'ordre du jour du duel. Gilles, vous vouliez y revenir. Pourquoi est-ce que c'est un moment si important dans ce que nous vivons, dans la crise que nous traversons, cette décision qui a été prise hier, mais qui pourtant semblait annoncée avec fanfare et trompette par Ursula von der Leyen il y a maintenant plusieurs mois, qui semblait acquise, qui semblait évidente?
Parce que, on en a parlé ici même il y a une quinzaine de jours, il y avait eu un accord qui avait été arraché aux pays dits frugaux et que cet accord lui-même avait fait l'objet d'un veto de la part de la Pologne et de la Hongrie et qu'on était devant une impasse qui paralysait l'Union européenne non seulement pour le plan de relance mais même pour le budget des prochaines années. Et donc là, il y a un déblocage, je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des sommes considérables qui vont pouvoir être dégagées et que ce qui est très important était la question du rythme, que ces sommes arrivent rapidement et le fait que ce veto polonais et hongrois ait pu être surmonté cette semaine est une bonne nouvelle. J'ajoute que c'est d'autant plus une bonne nouvelle que les concessions pour lever ce veto, je crois, ont été aussi limitées qu'il était possible. C'est-à-dire qu'il y a eu de la douceur sur la forme. Oui. La présidence allemande a essayé de trouver les voies d'un compromis au travers de ce qu'on a appelé une déclaration interprétative.
En revanche, que ça veut dire ?
C'est-à-dire de préciser, par exemple, que le cas polonais, le cas hongrois, comme les autres, sera examiné, je cite, de manière objective, juste et impartiale, qu'un certain nombre de recours seront possibles. Mais, donc, de la douceur sur la forme, mais de la rigueur sur le fond, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Il y a évidemment aucune modification de la conception que nous portons, nous, Européens, de l'état de droit. Il n'y a évidemment aucune procédure nouvelle qui a été proposée aux Polonais, mais surtout, et c'est l'élément le plus important, il n'y a aucune correction dans le mécanisme de conditionnalité. C'est-à-dire que ce qui faisait blocage était que...
Oui, il faut le rappeler.
Ce qui faisait blocage, c'était que les sommes qui devaient être dégagées pour le plan de relance étaient conditionnées au respect par l'ensemble des États membres, et donc notamment par les Polonais et par les Hongrois, de l'état de droit. Et donc ce mécanisme-là, subsiste, et il subsiste, et c'est très important, par un vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que les Polonais et les Hongrois ne pourront pas s'y opposer.
Natacha Polony.
Alors, je m'associe à Gilles pour ce qui est de constater qu'il y a là une avancée extrêmement importante et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une capacité de l'Union européenne à peser, en toute solidarité de chacun de ses membres, à peser sur son avenir et en particulier à investir massivement dans la transition écologique. Donc ça, c'est le point positif. Mmh. Et en effet, il le disait, les concessions sur la question de l'état de droit sont aujourd'hui assez limitées, même si en fait il y a une question de délai dans le traitement qui permet de dire que s'il y a une contestation des politiques menées en Hongrie ou en Pologne, en fait les affaires ne seront traitées que autour de 2022, ce qui n'entrave pas les actions des gouvernements polonais et hongrois actuels.
Oui, parce qu'il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent qu'il y a des procédures en cours de Bruxelles pour des atteintes à l'indépendance de la justice ou des médias, notamment en Pologne et en Hongrie, mais ces procédures sont longues et elles ne sont pas prêtes d'aboutir.
Voilà. Mais moi, le bémol que je voudrais apporter, et il n'est pas des moindres, c'est le fait que, certes, l'Union européenne avance. Certes, elle peut mettre en place un plan de relance tout en maintenant son idée de l'état de droit. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est le fait que certains pays, eux, peuvent porter atteinte à ce qui fait le fondement même de l'Union européenne, à savoir le fait que nous soyons des États qui décident d'être solidaires, d'aller dans le même sens et de défendre une conception commune des rapports non seulement démocratique, mais des rapports économiques. C'est-à-dire que quand les Pays-Bas réussissent à imposer le fait que la Hongrie, la Pologne ne puissent pas se dérober à leurs engagements sur la question de l'état de droit, c'est très bien, mais j'aimerais savoir à quel moment on va faire en sorte que les Pays-Bas ne puissent pas se dérober à la nécessaire solidarité européenne. Parce que les pays frugaux, eux, ont pu obtenir de très grosses concessions économiques dans leur participation à l'ensemble de l'action européenne. Et ils maintiennent, notamment pour les Pays-Bas, une forme de dumping fiscal qui mine l'Union européenne de l'intérieur. Alors, je trouve essentiel qu'on se batte pour la préservation de l'état de droit et qu'on combatte la politique actuelle des gouvernements polonais ou hongrois sur cette question-là. Mmh. Mais si on veut réellement que l'Europe ne soit pas autre chose qu'un grand marché ouvert à tous les vents qui facilite la vie des multinationales, qui recherchent toujours à payer le moins d'impôts possible, si on veut vraiment que des impôts rentrent en Europe pour payer ce qui doit être payé, et notamment les investissements en matière d'écologie, il serait bon aussi de faire pression sur des pays comme les Pays-Bas.
Gilles Finkelstein.
Alors, il y a deux bémols de Natacha. Un bémol qui est spécifique sur l'accord sur le plan de relance et un bémol qui est plus général. Sur le bémol plus spécifique, je partage ce que dit Natacha sur un point, c'est-à-dire que dans cet accord, mais c'est pas cet accord, c'est dans le fonctionnement de l'Union européenne, les Polonais et les Hongrois, pas en introduisant un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent gagner du temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si au terme de ce recours, il est considéré par la Cour qu'ils ont violé l'état de droit, les sommes qu'ils ont reçues devront être remboursées. Et puis, sur le bémol plus général, moi, ce qui me frappe quand je regarde ce qui s'est passé dans la semaine, dans l'Union européenne,
oui,
dans un moment dans lequel, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde la Russie, quand on regarde la Chine, quand on regarde l'Inde, les choses ne vont pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est une bonne semaine pour l'Europe et que les choses sont allées dans la bonne direction. Il y a eu davantage de volonté. On y reviendra tout à l'heure sur la question climatique avec
bien
le rehaussement des objectifs.
Fabius.
C'est vrai sur le plan numérique avec les directives qui ont été présentées. C'est vrai sur le plan économique avec non seulement le plan de relance de la Commission, mais également ce qu'a annoncé la Banque Centrale Européenne dans son plan de soutien à l'économie, qui est à la fois plus important et qui dure plus longtemps. Et il y a eu aussi, je termine par là, davantage, pas seulement davantage de volonté, mais aussi davantage d'unité de la part de l'Union européenne. J'ai été très frappé dans les négociations avec Boris Johnson et le Royaume-Uni sur le Brexit, que aussi bien le président de la République française que la chancelière allemande ne prennent pas Boris Johnson au téléphone en lui disant « ceux qui négocient, c'est la Commission européenne au nom de tous les Européens ».
On a vu sur la crise sanitaire que les Européens sont partis en ordre dispersé. Là, c'est une agence européenne qui va valider les vaccins. On a vu cette semaine que les Européens essayent de faire en sorte que le premier voyage en Europe de Joe Biden soit auprès des institutions européennes. Et même si c'est sans doute insuffisant, il y a eu là un premier pas vers des sanctions de l'Europe envers la Turquie. Donc, on peut considérer que tout ça est insuffisant, que ça va pas assez vite, que ça va pas assez loin. Mais quand on regarde le monde, je trouve que c'est plutôt une bonne semaine pour l'Europe.
Bonne semaine pour l'Europe, Natacha ?
Alors, tous les éléments que cite Gilles sont tout à fait justes et en effet, on peut considérer que tout cela va dans le bon sens. En revanche, cette semaine, nous avons vu aussi, en France, or c'est lié avec la politique européenne, le retour de du spectre des réformes, qui sont des réformes qui en fait vont faire payer les contribuables et les citoyens français, que ce soit la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que ce qui est exigé de la part notamment de l'Union européenne et en particulier des pays frugaux, c'est qu'en effet ces réformes-là soient maintenues. C'est une sorte de donnant-donnant dans le cadre du plan de relance. Et puis c'est une politique voulue par certains, notamment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors même que cette semaine, on apprend par exemple que le Suédois Nokia, qui était le repreneur d'Alcatel-Lucent, en fait détruit 980 emplois en France de façon totalement unilatérale, sans tenir compte de ses engagements et des aides de l'État. C'est le cas aussi de l'américain Kohler avec le fabricant de matériel sanitaire de Lafond. C'est le cas de General Electric. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un contexte où la politique est de réduire petit à petit les protections, les droits sociaux et de laisser des grandes entreprises dans une structure de compétitivité qui les incite aux délocalisations. Or ça, je pense que tant que l'Union européenne ne sera pas dans une politique qui tienne compte de cela, qui empêche que son système fasse des gagnants les multinationales qui, elles, ne respectent pas leurs engagements, l'Union européenne finalement ne pourra pas convaincre les citoyens des pays européens. Donc il y a des avancées. En revanche, on reste dans le même cadre et c'est cela qui m'inquiète.
Et on reprendra évidemment ce débat sur l'Europe entre vous, Natacha, et Gilles. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je crois que personne ne peut cautionner ce qui a eu lieu et on a décidé de rester ensemble, unis. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce genre de choses, de faire des différences par rapport à la couleur de peau, la race. C'est inadmissible dans le football, dans la vie en général. Ce n'est acceptable nulle part dans le monde.
La dernière voix que vous avez entendue est celle de l'attaquant parisien Neymar. La veille, c'était mercredi, la veille mardi, les joueurs du PSG et ceux d'Istanbul, Başak Şehir, décidaient de quitter le terrain après quelques minutes à peine d'un match en Ligue des Champions. Rencontre interrompue après les propos racistes de l'un des arbitres à l'encontre d'un entraîneur adjoint du club turc, Pierre-Achille Webo. C'est ce que vous entendiez en tout début d'extrait sonore. Le noir là-bas, je cite, va voir qui c'est, il ne peut pas se comporter comme ça. Le noir, là. C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Sport et politique, les sportifs pris dans des enjeux politiques et dans des décisions qui sont lourdes de symboles. Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense qu'il y a à la fois quelque chose d'extrêmement positif dans le fait qu'enfin le racisme soit dénoncé, notamment dans le milieu sportif où il était très répandu. Et on a en tête des matchs avec des attaques racistes contre des joueurs qui étaient totalement insupportables. On pourra aussi parler de la décision de, par exemple, d'Antoine Griezmann, de rompre son contrat avec Huawei, où là, on voit que la question de l'image est en train de faire peser sur certaines grandes entreprises le regard des citoyens, ou en tout cas de certains qui se veulent leur porte-parole.
Grisou qui reproche, pardon, à Sanson Sport, Huawei, sponsor chinois, de faire travailler de force des Ouïghours pour produire leurs appareils.
Voilà. Oui, donc là, il y a indéniablement des choses, des avancées, des choses positives, très intéressantes, qu'il faut contrebalancer par le fait que j'ai tout de même été frappée dans cet incident, cet événement du match interrompu pour les paroles de cet arbitre de touche. J'ai été frappée par une forme d'unanimisme que je trouvais totalement excessif, comme si cet événement-là était absolument historique. Or, l'extrait que nous avons entendu montre qu'il y a certes quelque chose, une façon de s'exprimer plus que maladroite de la part de cet arbitre de touche, mais qu'il y a eu une forme d'excès dans la réaction, puisque on entend bien Pierre-Achille Webo dire « why he says negro ». Or, il n'a pas dit « negro », il a dit « negro », qui veut dire « noir », ce qui déjà montre une montée en puissance. Et pourquoi ça? J'ai l'air de pinailler là-dessus.
Oui.
Mais c'est important, pourquoi?
Parce qu'il faut compléter la citation de Dembaba, en l'occurrence l'attaquant d'Istanbul, qui disait que ce blanc, tu diras cet homme, tu ne diras jamais, quand tu parles d'un homme blanc, ce blanc. Alors pourquoi est-ce que tu dis ça?
C'est toute la question. C'est toute la question. Et je pense en effet qu'il y a hélas beaucoup de cas où on dit ce noir et où on ne dirait pas ce blanc. Et donc, c'est choquant, bien entendu, et donc ça révèle une forme de racisme. Mais il y a aujourd'hui un mouvement qui consiste à uniformiser tout cela, et en l'occurrence, j'aimerais connaître réellement la mentalité et les intentions de cet arbitre de touche. C'est-à-dire, la question est de savoir, en gros, s'il avait dû désigner un homme blanc parmi des gens de couleur, aurait-il dit c'est le blanc là? Je ne sais pas. Et j'aimerais le savoir parce que la question de désigner le réel est importante. C'est-à-dire, pouvons-nous encore décrire le réel, ou bien y a-t-il des cas où nous considérons que décrire le réel implique une discrimination, puisqu'il y a un passé de discrimination contre les Noirs qui est totalement indéniable.
Gilles Finkelstein.
Écoutez, moi j'adore pinailler aussi, c'est le propre des jeux de l'esprit, mais je partage pas tout le pinaillage de Natacha en l'espèce. Je pense que ce qui s'est passé est important. On peut dire c'est une vieille histoire que celle des relations entre le sport et la politique. Ça fait bien longtemps que les sportifs manifestent leur opinion politique. On se souvient des gestes aux Jeux Olympiques de 1968. Et
plus
à beaucoup,
près de nous, de Paul Pogba en pleine guerre civile ivoirienne.
Voilà, et à beaucoup d'autres plus récemment. Dans l'autre sens, dans l'identification qu'il y a face à des sportifs, il y a souvent une dimension politique. On a évoqué il y a quelque temps la mort de Diego Maradona, il y avait aussi une dimension politique du petit contre les gros. Mais je crois qu'il s'est passé là quelque chose qui est un tournant. Un tournant pour le football. Natacha l'a dit d'une certaine manière, là où il y avait des actes racistes ou des mots racistes, très souvent le joueur se retrouvait seul, y compris isolé de ses propres partenaires. Là, il y a eu une solidarité.
Et puis ça venait des spectateurs.
Non, oui, ça venait
des supporters.
Bien
là, pour
sûr,
le coup,
là,
c'est face à des stades vides ou quasi vides, et on a l'impression que les sportifs se sont réappropriés leur sport d'une certaine manière.
Exactement. Les sportifs se sont réappropriés leur sport, non seulement il n'a pas été isolé de ses propres partenaires, mais l'équipe adverse s'est solidarisée. Donc c'est important pour le football, c'est important pour le racisme, parce que quelle que soit l'interprétation de est-ce que c'est negro ou est-ce que c'est négrou, on a progressé tous en roumain, ça montre une évolution de l'état de la société, et quelque chose qui était accepté n'est plus accepté. Et enfin, c'est important aussi sur les marques, sur les entreprises. Natacha l'a évoqué d'un mot. Jusqu'à présent, c'était les marques qui rompaient le contrat qu'elles avaient avec les sportifs lorsqu'il y avait un problème d'image.
Oui.
Là, c'est un renversement où, pour la première fois, c'est un sportif qui rompt le contrat qu'il a avec une entreprise parce qu'il considère que son comportement n'est pas conforme à ses valeurs. Et ça s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus vaste, dans lequel les entreprises ont de plus en plus intérêt à se préoccuper de pas seulement de ce qu'elles produisent, mais de la manière dont elles le font et de ce qu'est leur comportement.
Natacha, d'un mot avant le débat.
D'un mot. L'histoire du racisme contre les Noirs justifie une réaction et une sensibilité, et le fait qu'on ne juge pas de la même manière quand on parle d'un Noir ou quand on parle d'un Blanc, quand on essentialise un Noir ou quand on essentialise un Blanc, les conséquences ne sont pas les mêmes et ce que porte toute l'histoire de la langue n'est pas la même. Pour autant, un footballeur comme Wembaba, qui a été celui qui a vraiment monté en épingle cet incident, est plutôt coutumier des tweets et des réactions dans lesquelles il essentialise les Occidentaux, les Blancs. Et en fait, il ne faudrait pas que cette réaction normale, compréhensible et saine de joueurs contre le racisme qui existe dans le football nourrisse un moment où on voit actuellement une montée de l'identitarisme et de l'essentialisation de tous les côtés.
Histoire à suivre dans le grand face-à-face tout de suite, le débat avec le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.
France Inter.
Vive la planète.
Samedi 12 décembre 2020. Journée spéciale. Climat, chaud devant.
Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 12 décembre 2015, on se souvient de ce coup de marteau du président de la COP21, Laurent Fabius, qui scellait l'accord de Paris, avancée historique et pleine d'espoir. À l'époque, 195 pays qui s'engageaient pour contenir, vous le savez, le réchauffement climatique, limiter l'élévation des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. 5 ans après, on peut dire que le constat est amer, les signes ne manquent pas, je le disais, qui indiquent une accélération rapide et désastreuse du réchauffement climatique. Et celui qui présidait la COP21 est aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel et il est notre invité. Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
Merci infiniment d'être au micro de France Inter pour cette journée spéciale que consacre notre antenne aux accords de Paris, aux défis climatiques. Vous-même, vous serez aux côtés du président de la République tout à l'heure à 15h pour ouvrir le sommet de l'ambition pour le climat. Vous attendez des annonces de la part des différents États qui vont s'engager pour une neutralité carbone. Beaucoup de questions à vous poser. Vous publiez un livre étonnant, un livre fort, un livre puissant, Rouge Carbone, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et c'est un livre, Laurent Fabius, qui est écrit à coups de marteau. Est-ce que le sage est en colère? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est même désespéré?
En colère, non. Désespéré, non. Mais inquiet, oui. Comme j'imagine tous ceux qui se penchent sur cette question du dérèglement climatique. Parce que quand on y réfléchit, c'est peut-être la question qui détermine le plus, non pas le sort de la planète, comme on dit souvent, parce que la planète continuera d'exister, mais le sort d'une grande partie de l'humanité. Et ça commence maintenant.
Ça commence maintenant, mais quand je disais que vous étiez en colère, c'est un livre où vous attaquez, ou en tout cas on n'a pas l'habitude de retrouver sous la plume d'un sage, et du sage parmi les sages, une manière aussi dure de s'attaquer à certains mouvements d'opinion, à certains mouvements de pression qui refusent d'admettre le réchauffement climatique et la nécessité d'agir de manière urgente. Un rappel à l'ordre à de nombreux dirigeants, des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Et ce qui est assez frappant, c'est que vous nous renvoyez nous-mêmes à notre propre responsabilité, à savoir que en pleine crise du Covid, nous semblons avoir, sinon oublié, disons minoré ou mis de côté le défi climatique. Et comment expliquez-vous ce paradoxe-là? Et que ça ait pu se produire aussi vite?
Il y a deux choses différentes. Bon, sur la tonalité de mon livre, je ne l'ai pas écrit comme vous l'avez lu.
Mon sentiment de lecteur, et oui. Le lecteur a toujours raison.
Oui, ça me rappelle une autre formule. Bon, d'abord, je m'interdis d'entrer dans le débat politique français, vous l'avez vu, donc je ne parle pas de ça. En revanche, je fais des constats, et la seule personnalisation que je fais concerne feu le président Trump. L'ancien président Trump. Parce que, peut-être on y reviendra, là je pense qu'il y a une responsabilité extrêmement forte et que je personnalise. Bon, le deuxième aspect de votre question était quoi?
Le deuxième aspect de ma question...
Ah oui, sur ce que j'appelle le giga-paradoxe. Quel est mon constat? La Covid, c'est une catastrophe. Et à peu près tous les gouvernements du monde prennent des dispositions, et ils ont raison, importantes, drastiques, comme on dit, en matière économique, en matière sociale, en matière de liberté. Bon, et il faut le faire. Mais en même temps, la mutation climatique, le changement climatique, c'est au moins aussi destructeur que le réchauffement climatique, y compris en termes de santé. Quand on regarde les chiffres, ils sont publiés sur les décès entraînés par le réchauffement climatique et pour la pollution plus généralement, ils sont encore plus importants qu'en ce qui concerne la Covid. Et ce qui me frappe, c'est que on ne prend pas les mêmes décisions aussi rapidement, aussi fortement contre le changement climatique, par rapport auquel il n'y a pas de vaccin, que ce qu'on prend en ce qui concerne la Covid.
Alors mais comment l'expliquez-vous justement? Parce que je vais donner la parole à Gilles et Natacha, mais il y a quelque chose de très fort lorsque vous dites que la menace individuelle de la mort, celle qui pèse sur chacun d'entre nous, oui. Et quand je dis nous, je parle de l'ensemble des habitants de cette planète.
Y compris des gouvernants.
Y compris des gouvernants. Et pourquoi est-ce que cette peur-là s'est substituée au point d'occulter l'autre peur, celle qui était présente dans le débat public lorsque beaucoup alertaient à la catastrophe vers laquelle nous allions?
Je pense que il y a deux choses qui jouent. La présence de la mort, pour schématiser, est plus forte en ce qui concerne directement la Covid que en ce qui concerne la mutation climatique. Alors que, je le répète, du point de vue de la santé, les choses peuvent être comparées. Deuxièmement, la Covid, c'est tout de suite. Le changement climatique, on a l'impression complètement à tort
oui.
que c'est pour dans 50 ans. Je me rappelle au moment où je préparais la COP21, j'avais une conversation avec Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Il m'avait dit, Monsieur Fabius, il y a deux erreurs à éviter. Ah oui, la première erreur, ce serait de dire que cette affaire du réchauffement climatique, c'est dans 50 ans. C'est pas vrai, ça commence dès maintenant. Et si on dit aux gens, c'est dans 50 ans, les gens se disent, ben dans 50 ans, moi j'y peux rien. Bon. Et la deuxième erreur, me disait-il, ce serait de faire une présentation uniquement négative de ce risque. Alors que bien sûr c'est un risque, mais si on fait ce qu'on doit faire, il peut y avoir des éléments positifs et il peut y avoir des créations. Et pour en venir à ce giga paradoxe, je pense que le fait que on a un petit peu distancié tout ça dans l'espace et dans le temps. Quand on parle du réchauffement climatique, on nous montre en général les glaciers dans l'Arctique qui fondent. Bien sûr, ils fondent et c'est une catastrophe. Mais peu d'entre nous habitent dans ces régions. Donc il faut, d'une manière très très forte, et sans jouer sur la peur, si je puis dire, montrer quelle est la réalité. Et là,
votre livre prend la peur au sérieux, la peur heuristique, c'est-à-dire véritablement comme si la peur avait des vertus pédagogiques en l'occurrence.
Je n'utilise pas la peur, mais les deux mots clés,
s'appelle Rouge
au
Carbone.
Moment de Paris, comme au moment aujourd'hui, comme au moment de Glasgow l'année prochaine, c'est ambition et action. Voilà, s'il y avait deux choses à retenir, c'est ça. L'ambition, on l'a fixée, c'est 1,5 degré. Et donc, on a maintenant cette feuille de route et action, parce que il faut commencer tout de suite. Il y a des choses qui ont été faites. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Monsieur Badou, quand vous dites constat amer.
On sait que 1,5 degré, l'objectif ne sera pas tenu, d'ores et déjà.
Regardons les chiffres. Au moment où j'ai signé l'accord de Paris, le courant général était plus 5 degrés ou plus 6 degrés.
Ouais. Bon.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, un certain nombre d'engagements qui ont été pris, et si on continue sur la trajectoire actuelle et sans engagement, on est autour de 3 degrés.
3,
c'est déjà quand même 3 degrés de moins. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc il faut aller vers 1,5 degré. Donc l'accord de Paris, il a déjà été dans une certaine mesure efficace, mais c'est vrai que comme on est au-dessus de l'objectif, on a des catastrophes de toutes sortes, et si on n'agit pas très vite et très puissamment, elles vont augmenter.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polonier.
Oui, j'ai lu Rouge Carbone, j'ai été frappé, comme Ali Badou, de votre engagement, de vos convictions, et je voudrais moi commencer par une question personnelle pour savoir quel a été le cheminement. Quels ont été les événements qui vous ont fait considérer cette question comme une question centrale? Je vous pose ça parce que vous êtes socialiste, vous avez été élu longtemps d'une circonscription industrielle, d'une circonscription ouvrière, vous n'êtes pas tombé dans la marmite environnementale et écologiste tout petit. J'ai le souvenir, puisque ça fait longtemps que nous nous connaissons, qu'il y a 30 ans, vous aviez, lors du congrès de Rennes, lors du fameux congrès de Rennes, porté une motion dans laquelle il y avait, j'ai retrouvé le texte de la motion hier soir, dans lequel vous disiez qu'il faut que le Parti Socialiste devienne le premier parti écologiste de France,
Mais malgré tout, c'était, il y avait là sans doute une intuition forte, mais ce n'était pas un élément structurant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors pour que vous en fassiez cette question, ce livre et cet enjeu central?
C'est un cheminement assez long, mais puisque vous me posez une question personnelle, je vous réponds sur ce plan. J'ai été longtemps un élu local dans une région effectivement frappée par la pollution. Quand vous êtes élu local, j'étais maire, président d'agglomération, etc., vous agissez en fonction de ce que vous vivez et ce que vivent les habitants. C'est-à-dire la pollution, vous prenez des décisions sur les transports, sur les déchets, sur l'eau. Et ce contact avec la réalité quotidienne, ces décisions que j'ai à prendre, m'ont sensibilisé à ces questions. Au point même que j'ai créé, dans les années 90, l'association des éco-maires, c'est-à-dire tous les maires qui s'occupent d'écologie. Et aujourd'hui, elle groupe 2000 collectivités locales, ce qui est considérable. Donc, à la question d'où vient ma sensibilité, je dirais d'abord de mes responsabilités locales. Bon, ensuite, j'ai eu d'autres responsabilités nationales, et je ne dis pas que j'ai toujours agi comme on devrait le faire dans l'absolu dans ces domaines, mais vraiment, ça a été une préoccupation très importante, et vous faites allusion à un moment où j'avais un engagement politique, maintenant je n'en ai plus, et c'est vrai que j'ai introduit ce terme de social-écologie, qui maintenant est repris. Bon, et puis, appelons les choses par leur nom, le fait qu'on m'ait confié la préparation, la négociation, puis la présidence de la COP21, évidemment, a été déterminante. Et une fois qu'on a eu la conscience et une certaine connaissance de ces sujets, même si aujourd'hui je respecte un devoir de réserve, on ne peut pas dire j'abandonne. D'autant que la chose intéressante et assez singulière, c'est qu'aujourd'hui je préside le Conseil constitutionnel et que, comme dans toutes les cours constitutionnelles du monde, nous sommes de plus en plus saisis de ces questions environnementales.
Et notamment la question des néonicotinoïdes, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Sur lesquels nous avons statué récemment. Et donc, j'ai eu cette expérience à la fois locale, nationale, législative, gouvernementale, et aujourd'hui juridictionnelle. Et tout ça m'a permis d'avoir une conscience et une connaissance relativement forte de ces sujets.
Et donc de regarder en face cette menace rouge carbone. Natacha Polony.
Je pense que ce livre est très intéressant dans la mesure où il rappelle tout simplement des données qui sont des données objectives, exactement, des données chiffrées. Mais il soulève tout de même un paradoxe, ou en tout cas ce qui m'apparaît comme tel. C'est le fait que, en se focalisant sur le climat, et même si vous évoquez par exemple la question de la consommation de plastique, la question du glyphosate, des néonicotinoïdes, la dimension disparition de la biodiversité, la dimension de destruction des terres arables est moins présente, ce qui est normal puisque en effet on a fait le choix collectivement de mettre en avant essentiellement la question climatique, alors qu'il me semble que les questions environnementales sont, j'allais dire, plus globales. Et j'en viens à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui relève en fait des choix économiques? C'est-à-dire que quand on lit les chiffres que vous citez, ce qui vient à l'esprit, c'est que la division mondiale du travail, l'extension des échanges, des flux de capitaux et de marchandises, a provoqué un dérèglement et une destruction de l'environnement sur lesquels on ne pourra revenir que si justement on joue sur ce qui est fondamental à savoir ce système, c'est-à-dire un capitalisme qui est un capitalisme consumériste fondé sur l'idée que les consommateurs font marcher la machine et que donc on a besoin de ce cycle de consommation-production, de mise en concurrence de la planète et donc du fait qu'on produit à l'autre bout de la planète des objets pour certains totalement inutiles et dans un plastique qui ne se détruira pas.
Alors il y a deux aspects dans ce que vous dites. C'est vrai que mon livre Rouge Carbone est centré sur le climat, ça je l'assume. Et en même temps, c'est vrai que ce qu'on constate de plus en plus, c'est que il n'y a pas d'action en silo. Les problèmes qu'on résume...
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'environnement recouvre différents aspects. Il y a la question du climat, il y a d'autres questions, la question de la biodiversité, la question de la nature, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, tous ces aspects communiquent entre eux. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de silo. Et par exemple, l'année prochaine, nous allons avoir à la fois une COP en Chine sur la biodiversité, une COP sur la désertification, une COP sur le climat, et en fait tout ça est lié.
À Glasgow, bon. Elle devait avoir lieu cette voilà. année, mais elle aurait été repoussée l'année prochaine à cause de la COVID.
À Glasgow. Bon, donc, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, physiquement, on comprend bien qu'il n'y a aucune frontière en matière d'environnement, ni spatialement, ni dans le temps, toutes les générations sont concernées. Bien, mais mon livre est sur le climat.
Mais la question capitaliste.
Alors, la question capitaliste. Je n'ai pas voulu, si je puis dire, et l'expression est trop rapide, me perdre dans cette question, parce que, d'abord, encore une fois, j'ai une obligation de réserve, et je ne voulais pas tout mélanger, je voulais apporter des faits et un certain nombre de solutions. Et puis...
Non, mais il vous est arrivé de prononcer des mots comme « celui-là qui est capitaliste ne peut pas être socialiste », ce sont vos engagements de toujours, donc en l'occurrence, système de production, il est bien au cœur de la problématique dont nous parlons aujourd'hui, Laurent Fabius.
Là, vous me cherchez...
mais j'aimerais vous trouver.
oui, bon, je suis pas loin de vous, finalement.
Mais à distance non, mais de sécurité, malgré tout.
Je n'ai pas à prendre des positions politiques, il est évident qu'il y a une relation entre notre mode de développement et un certain nombre de ses conséquences. Maintenant, là, je vous provoque, si on attend la fin du capitalisme pour s'attaquer à la question du climat, on risque d'attendre un certain temps. Et je dis à propos du grand débat, et je ne prends pas ça de haut, sur croissance-décroissance, qu'il y a des secteurs qui vont croître, il y a d'autres secteurs qui vont décroître, et de ce point de vue-là, en matière de climat, un élément que j'avais introduit, j'ai beaucoup tenu dans l'accord de Paris, et qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne peut pas agir comme ça, d'une manière abstraite. La question du climat est toujours liée à la question des inégalités. Prenez ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Au départ, il y a une idée que partagent beaucoup d'économistes, qui consiste à dire qu'il faut donner un prix au carbone,
oui.
Et donc il faut tarifer le carbone, et tout ça se traduit, si on prend pas de précaution, par une augmentation d'un certain nombre de taxes. Si on n'accompagne pas ça d'une transition juste, c'est-à-dire d'autres mesures différenciées, eh bien évidemment, on a des réactions. Et pour prendre un exemple voisin, dont je parle dans mon livre, en Allemagne, l'Allemagne s'est fixée comme objectif, elle utilise beaucoup de charbon, qu'en 2038, il n'y aura plus de charbon, mais elle a mis 40 milliards d'euros pour que les régions concernées et les travailleurs concernés puissent être formés, recevoir des compensations. Donc, il y a évidemment un lien entre ces problèmes qu'on pourrait qualifier techniques et puis l'aspect social. Je ne le conteste absolument pas, mais j'ai voulu laisser mon lecteur libre et ne pas traiter de controverses idéologiques trop profondément.
Alors, je vais donner la parole à Gilles dans un instant. Il y avait un slogan, celui du président de la République, Emmanuel Macron, « Make our planet great again ». Vous vous souvenez, il le disait en bon français, « Rendre notre planète plus belle, plus forte encore ». Mais il y a, malgré tout, le problème de nos émissions de CO2, celles que produit la France, celles qu'elle importe, celles qui sont délocalisées hors de nos frontières, et dont parlait Natacha, et qu'il faut ensuite rapatrier dans notre bilan national. Et ça, pour le coup, nos émissions de CO2 ne cessent de bondir. Plus de 78% d'augmentation entre 1995 et 2018. Nous sommes de mauvais élèves, alors que c'est ici même que vous avez tapé avec votre marqueau pour sceller l'accord de Paris.
Ce qui fait vraiment la définition de notre situation, ce sont les rapports d'un conseil qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qui a été d'ailleurs créé par les autorités officielles.
Instance consultative qui a été créée en 2018.
Voilà. Et ce Haut Conseil fait le bilan. Et pour résumer, il dit, bon, la France, il s'occupe de la France, n'est certainement pas le pays le plus critiquable du monde de ce point de vue-là, mais il y a des progrès à faire dans un certain nombre de domaines, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion. Il ne faut pas simplement regarder nos émissions internes, mais aussi les produits que nous importons et ce que cela comporte. Ça me permet d'embrayer quand même, pour avoir une remarque plus générale. Bon, quand on regarde quels sont les pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Numéro 1, la Chine.
De loin.
Près de 30%, de loin. C'est-à-dire que la Chine émet plus de gaz à effet de serre à elle seule que les États-Unis plus l'Europe réunie. Après, vous avez les États-Unis autour de 15%, après vous avez l'Europe autour de 10%, ensuite vous avez l'Inde autour de 7%, ensuite vous avez la Russie, etc., etc. Ce qui veut dire que, et là je me raccroche à l'actualité immédiate, il est très important que tout le monde fasse un effort, bien sûr, mais d'abord les grands émetteurs. Et un élément récent qui vient d'intervenir, ce sont les prises de position du président chinois, extrêmement importantes, il y a de cela quelques semaines, avant l'élection de Joe Biden, qui a dit pour la première fois... En Chine, je m'engage à ce que les émissions, le maximum d'émissions, interviennent avant 2030 et que nous atteignions la neutralité carbone en 2060. Dans la foulée, d'autres grands dirigeants de grands pays ont pris des positions positives. Le Premier ministre japonais, le président de la Corée du Sud. Hier, vous avez fait allusion à l'accord européen qui est important. Et puis, il y a l'élection de Biden. Et ce que je dis, j'ai terminé mon livre avant l'élection de Biden, mais je disais déjà que ce serait probablement la chose la plus importante en matière de climat. Alors, ce que je dis, c'est que...
Si le Sénat américain le laisse mener à bien ses projets, ce qui est loin d'être le cas.
Oui, on va voir dans un instant. Mais si nous ne sommes pas exactement dans les pas des objectifs de l'accord de Paris, je le dis clairement, nous avons fait un certain nombre de choses, et il y a ce que j'appellerais des signes d'espoir. On va voir cet après-midi un certain nombre de pays prendre des engagements nouveaux, c'est une bonne chose, après il faudra vérifier qu'ils le tiennent, mais là je sens un certain espoir qui remonte, et la chose frappante, c'est que les scientifiques font leur boulot et continuent à le faire magnifiquement, les acteurs non étatiques progressent, notamment beaucoup d'entreprises, ce qui n'était pas évident, mais un certain nombre d'États que Antonio Guterres, secrétaire de l'ONU, et moi-même appelons les États somnambules, eux n'en font pas assez. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister maintenant, ambition, action.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous avez signalé des signes d'espoir récents. En même temps, votre livre commence en disant « c'est le temps de la déception
oui. »,
que la France met... davantage encore, même le reste du monde n'est pas sur la trajectoire. Vous avez évoqué les responsabilités, notamment les responsabilités d'un certain nombre d'États, les actions sans doute insuffisantes dans beaucoup de secteurs des entreprises. La question que je voudrais vous poser concerne les citoyens.
Oui.
C'est une question que je pense que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi ça sert? Et j'ai été très frappé en lisant votre livre, qui est très intéressant sur beaucoup de points, et notamment sur celui-là. Vous disiez tout à l'heure... L'Union européenne, c'est 10%.
Un peu moins, oui, c'est ça. Oui.
La France, c'est 10% de l'Union européenne.
Oui, 0,9.
Bon. Donc déjà, on se dit, la France elle-même, c'est pas grand-chose. Et les citoyens français à l'intérieur, vous racontez à un moment, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle Carbone 4 qui a eu l'idée d'établir une liste d'une douzaine d'actions que chacun peut faire. Et si on les fait tous les jours de l'année, les 12 actions, que le total de tout ça, ça réduit notre propre facture personnelle de 25%, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois très peu. Et donc, on a presque un sentiment de aquabonisme. Pourquoi faire tout ça
Je fournis les éléments de la décision. Et je le fais aussi honnêtement que possible. Les chiffres que je cite dans mon livre, et qui sont repris d'ailleurs d'études que vous avez vous-même citées, sont objectivement justes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas, pour ce qui concerne chacun d'entre nous, ne pas faire ces gestes. Et puis, dans des démocraties comme les nôtres, il y a quand même quelque chose de supplémentaire qui s'appelle le bulletin de vote. Bon. Et donc, tout ne dépend pas individuellement du citoyen. Citoyen électeur, citoyen consommateur. Mais beaucoup de
Laurent
choses.
Fabius, nous sommes en pleine période de Noël. Alors nous ne fêterons pas Noël comme d'habitude, mais vous avez vu qu'il y avait quand même une ruée vers les magasins pour acheter. On a un gouvernement trouve que les Français ont trop épargné pendant le confinement et qu'il faut qu'ils aillent dépenser leur épargne et donc acheter davantage de biens de consommation dont on imagine que certains d'entre eux sont périssables ou en tout cas nocifs pour la planète. Voilà la réalité aussi de nos contradictions.
Vous êtes, je vous connais par ailleurs, quelqu'un très subtil, donc ne grossissons pas. Et bon,
je vous remercie pour la subtilité, mais là en l'occurrence, c'est juste ouvrir les yeux devant ce qui se passe lorsqu'on traverse de France.
Arriver à lutter, ce qui est indispensable contre le réchauffement climatique, ne signifie pas devenir un anachorète. Bon, parce que sinon, ça va pas marcher. Mais dans la consommation elle-même, il y a des évolutions. Quand vous faites vos courses, Monsieur Badou, vous vous rendez compte que maintenant, il y a l'affichage de l'origine des produits, et que quand les produits ont fait 10 000 km avant de revenir en France, eh bien, ils commencent à être délaissés, que de plus en plus de gens récusent les emballages plastiques, et que on insiste sur le bio, et quand c'est vraiment du bio, eh bien, il y a des chiffres d'affaires importants, que les entreprises... J'ai discuté hier avec le patron d'Unilever, qui n'est pas la PME connue, et il me disait, il nous disait, puisque nous étions plusieurs, que... Évidemment, le consommateur, maintenant, voit ses goûts et ses centres d'intérêt et de décision changent complètement. Regardez ce qui se passe aussi avec les banques.
Unilever, qui est l'un des leaders mondiaux des produits de consommation.
Bien sûr. Alors, on peut dire, certains disent, non pas à propos d'Unilever, mais à propos d'autres, c'est du greenwashing, etc. Ça existe peut-être. Mais il y a une évolution profonde, y compris sur le plan financier, même si elle n'est pas assez importante. Aujourd'hui, il devient très difficile, lorsque on est à la tête d'un empire charbonnier, de se financer. Parce que les fonds souverains et de grandes banques disent non, il faut aller plus loin. Je suis d'accord. Mais je sens quand même qu'il y a une évolution. Et ceux qui sont en retard, je trouve, c'est un certain nombre d'États.
Natacha Polony.
Oui, je pense que la question quand même est cruciale de savoir si tout ça doit reposer sur les citoyens ou si c'est un système. C'est-à-dire que là, que les citoyens aient fait évoluer, pour ceux qui le peuvent financièrement, aient fait évoluer leur choix de consommation. C'est formidable, mais Gilles l'a rappelé, ça ne change pas grand-chose en fait. Et quand on évoque la crise des Gilets jaunes, ce qui avait été extrêmement frappant,
madame,
c'était...
Madame Pauline, je vous interromps, vous êtes une philosophe, je crois, et vous avez lu Kant.
Non, je n'ai pas cette présence.
Bon, enfin, vous avez certainement connaissance des maximes de Kant. Et il y a une des maximes de Kant qui dit, j'essaye de mobiliser mes souvenirs, agis toujours de manière que le principe de ton action puisse être érigé en norme universelle dans la nature.
Justement, bon, c'est voilà. C'est l'impératif catégorique.
Exactement.
Alors, simplement, justement, la question est de savoir comment on fait en sorte que les politiques publiques aillent dans le sens qui sera bénéfique. Vous avez évoqué la question de l'opposition supposée entre la question sociale et la question écologique. Mais ce que nous disaient les Gilets jaunes, et en cela ils avaient parfaitement raison, c'est que tout le système qui a été conçu sans qu'on demande leur avis aux citoyens est centré sur le fait que les emplois sont concentrés à un certain endroit, que les emplois industriels sont concentrés dans certains pays. L'entrée de la Chine dans l'OMC a ravagé une bonne partie des PME européennes à cause des délocalisations qu'elles ont occasionnées, de même que l'extension, l'ouverture de l'Union européenne a permis une délocalisation vers les pays de l'Est. Et par exemple, lors de la dernière campagne présidentielle, on a vu le cas de Whirlpool, cas emblématique, où on a donc des sèche-linges, une usine de sèche-linges délocalisée vers la Pologne, alors qu'elles vont, ces sèche-linges reviendront pour être vendus sur le marché français.
Ouais.
Demander aux citoyens d'agir quand l'ensemble du système est fait pour mettre en place un dumping social qui ruine les droits sociaux des uns et des autres, qui s'appuie sur ces différences de droits sociaux pour augmenter le profit, est-ce que ce n'est pas une façon bien hypocrite ensuite de dire aux citoyens que c'est à eux d'agir dans la mesure
alors, laissez
où ce
Laurent
système-là,
Fabius y répondre.
Il a été mis en place.
Mais Madame Polony, je ne nie pas qu'il y ait des connexions, j'emploierai ce terme neutre, entre un certain nombre d'éléments de notre société et puis le système général tel que vous le décrivez. Bon, mais là où je... Non, je ne suis pas sûr d'ailleurs que je me différencie de vous sur le point que je veux dire. Je n'attends pas une modification, un bouleversement, un anéantissement de ce système avant de me poser la question et d'essayer d'y répondre, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, il y a des choses qu'on peut faire sur le plan politique, ça, c'est le libre arbitre, mais il y a des choses qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que consommateur, si on a un certain nombre de responsabilités en tant que dirigeant de ceci, dirigeant de cela, vous voyez, donc chacun à sa mesure. Monsieur Finkelstein avait raison, en reprenant les termes des études, ça ne veut pas dire que ce soit l'élément qui pèse le plus, mais faisons chacun à sa mesure.
Il nous reste quelques minutes Question rapide, réponse rapide, Gilles.
Faisons chacun à sa mesure. Je voudrais interroger non pas l'ancien président de la COP ou l'auteur de Rouge Carbone, mais le président du Conseil constitutionnel à propos de la décision qui a été rendue il y a deux jours sur la loi sur les, notamment sur les néonicotinoïdes. Vous avez dans votre décision, et j'invite tous les auditeurs à aller sur le site du Conseil constitutionnel parce que les dossiers des décisions sont absolument remarquables.
Merci.
Parce qu'on a tous les éléments pour essayer de se forger son propre jugement. Donc, vous avez déclaré conforme à la Constitution la loi en considérant que, en gros, c'était proportionné, c'était que les betteraves sucrières, c'était transitoire, il y avait des garanties.
Et qu'on peut utiliser ces pesticides tueurs d'abeilles dans certains cadres.
Voilà. Mais ma question est, parce que c'est un sujet que vous évoquez dans le livre, on pouvait invoquer, et c'est une critique qui a été faite contre cette décision, un principe de non-régression. C'est-à-dire que on prend très souvent des engagements et puis on revient en arrière. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut, un jour, faire de la non-régression un principe à valeur constitutionnelle?
Écoutez, le Conseil constitutionnel, contrairement à son nom, ne donne pas le conseil, il prend des décisions.
C'est un tribunal,
C'est une cour constitutionnelle. L'idée est quoi? C'est que les parlementaires font la loi, et heureusement, mais au-dessus de la loi, il y a la Constitution. Et donc, il faut que la loi soit conforme à la Constitution. Et si on peut modifier la Constitution, selon certains critères très très précis, mais tant qu'on ne l'a pas modifié, la loi doit être conforme à la Constitution. Et nous sommes les sages, les neuf sages, qui doivent vérifier si nous sommes saisis ce point-là. Bon, dans la question principe de non-régression, vous avez vu que nous n'avons pas tranché ce point dans notre décision. Ce point a été abordé par un certain nombre de personnes, mais nous ne l'avons pas tranché. Nous avons en revanche fait référence à ce qu'on appelle la charte de l'environnement, qui a été initiée par Jacques Chirac, et qui maintenant
fait partie...
Et qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Bon, et à partir de là, nous avons pris une décision qui ne constitue pas du tout un blanc-seing, vous l'avez noté, qui consiste à dire, bon, il y a un certain nombre de garanties qui sont apportées, et puis surtout, il y a une limitation dans le temps, et donc, dans cette mesure-là, c'est conforme, si je puis dire. Mais, par rapport à la question, nous n'avons pas tranché ce point.
Monsieur Fabius, vous allez donc rejoindre à 15h le président de la République pour ce sommet dont j'ai oublié l'intitulé, pour l'ambition, pour un sommet virtuel.
En français, c'est les Climate Ambition Summit.
Voilà, donc en très bon français. Mais qu'est-ce que vous attendez du sommet de cet après-midi, qui doit réunir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement de manière virtuelle, évidemment, pour faire le point sur leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique?
Alors, ce sommet, est organisé à la fois par l'ONU, par le Royaume-Uni, qui va avoir la présidence, et par nous. Et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que la règle qui a été fixée, tous les pays du monde ont été ont droit de parole, mais on ne donne la parole qu'à ceux qui annoncent des ambitions plus fortes que dans le passé. Et, par exemple, on a refusé la parole au Brésil, qui voulait parler, à la Russie, qui voulait parler, au Mexique, qui voulait parler, et à quelques autres.
Et donc parleront Angela Merkel, Xi Jinping, par exemple?
Parleront les Chinois, parleront d'autres, le Canadien, etc. Et c'est une chose utile, parce que je reviens à ambition et action, il faut être plus ambitieux et concrètement que ce qu'on a été jusqu'ici, et donc il faut pousser les dirigeants à faire en sorte que vraiment les choses s'améliorent. Et ce que je vois dans les derniers mois se mettre en place, c'est une bonne chose, c'est une clarté des horizons, parce que ces problèmes sont horriblement compliqués. Mais là, ça devient plus clair. À court terme, je dis bien à court terme, c'est-à-dire dans l'immédiat, il faut que tous les pays du monde qui opèrent une relance, on en a parlé, fasse une relance verte et non pas une relance brune traditionnelle. Deuxièmement, à l'horizon 2030 au maximum, il faut que tous les pays du monde disent « voilà, nous allons diminuer nos émissions à partir de 2030, sinon avant ». Et troisièmement, il faut que tous les pays du monde disent « à la moitié du siècle, ce sera la neutralité carbone », c'est-à-dire que nous n'émettrons pas plus de CO2 que nous l'en faisons disparaître. Et maintenant, c'est clair, et non seulement les États, mais les entreprises, les villes, les régions et les simples particuliers doivent aller dans ce sens, ou en tout cas ne jamais dépasser ces objectifs-là.
Un sommet virtuel, ce sera sur Internet. Le problème, justement, c'est qu'Internet est l'un des premiers pollueurs mondiaux, peut-être aussi important que la Chine.
Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait, mais il y a
un livre que, effectivement... il y a de la pollution due à ces nouvelles techniques qui peut être de l'ordre de 8%. Et donc, il faut que eux-mêmes, Internet et les autres, modifient leur manière de travailler.
Mais merci infiniment, en tout cas, Laurent Fabius. Le temps passe vite. Rouge Carbone est publié aux éditions de l'Observatoire. Bon après-midi et bon sommet. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, Marie Perrier et tous ceux qui ont préparé cette émission, Florent Bujon. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Questions politiques avec le président du Conseil européen, Charles Michel, demain.